Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 17h, Encore heureux,
Claire Simon est une cinéaste des frontières.
Arthur Dreyfus.
Du documentaire au réel, elle a filmé la gare du Nord avec une grâce et une sensualité rares comme celle de Nicole Garcia. Mais au-delà des trains et des quais, comment circule-t-elle sur le chemin de la vie? Comment faire des films d'année en année en continuant de creuser, de travailler avec ses fantasmes? Et le cinéma rend-il heureuse? Ce soir, nous lui poserons ces questions.
Ah, check this out.
Encore heureux. Du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter.
La voix est libre.
Il est un peu plus de 15h04, on retrouve la base Si j'y suis avec Daniel Mermet.
Il a changé Sarkozy, hein. Il a pris beaucoup de poids, il porte des lunettes, il s'est dégarni. Franchement, s'il n'était pas toujours aussi arrogant, aussi sûr de lui et aussi à droite, et même plus, on le reconnaîtrait pas. Et franchement, il a changé Nicolas Sarkozy.
Bonjour Daniel, je suis tellement ému d'écouter cette émission de Rwanda. Je suis sénégalais, mais j'avais les larmes aux yeux. Que Dieu te donne une bonne santé et une longue vie, Daniel. Je rêve que tu es un journaliste exceptionnel. Et je me demande comment l'être humain peut être si sauvage. Je suis vraiment aimé, Daniel. Je te remercie encore infiniment. Que Dieu te laisse devant nous encore des années, Daniel. Merci beaucoup. Allez, au revoir.
L'émission d'aujourd'hui me rappelle qu'au Cambodge aussi, des descendants Khmer Rouge cohabitent avec des descendants de victimes. Et un Français qui vit à Sihanoukville m'avait expliqué que deux jeunes qui travaillent avec lui s'adressent la parole que pour le boulot et maintiennent une sorte de distance. C'était pas une haine profonde, ils n'étaient pas nés en 75. Et pourtant, il faisait beau, la mer et le ciel étaient bleus sur la plage d'Autresse, mais ils n'oubliaient pas. Et j'en profite aussi pour dire que je m'habitue toujours pas à l'ablation de 10 minutes de l'émission et à son absence le vendredi. Alors tant d'émissions passe-plat gardent leur format d'une heure. J'aime bien Hervé Pochon pourtant. Et comme Claude, j'ai besoin de Nougaro et je rêve qu'on ne parte qu'armé d'amour dans les pays pauvres.
Bonjour, c'est Cécile de Lyon. J'appelle suite à votre émission sur le Rwanda, à vos émissions sur le Rwanda. C'était pour rendre hommage à une partie de la population rwandaise dont on parle très peu. Ce sont les musulmans du Rwanda qui non seulement n'ont pas participé au génocide il y a 20 ans, mais en plus ils ont caché le plus de monde possible. Ils ont caché tout ce qu'ils ont pu et pas seulement leurs coreligionnaires. Et je le sais parce que mon mari, lui, il est musulman, il est rwandais, il a survécu parce qu'il a été caché par des voisins pendant tout le génocide. Et si vous regardez, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui étaient discriminés, donc qui ont refusé de participer à ça. Et ben, c'est l'honneur, voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui ont résisté, et c'est beau. Merci pour tout.
Niami Rombo. Je suis en train de me demander si c'est bien ça le nom du quartier musulman de Kigali. Oui, ce que dit cette auditrice, on l'entend beaucoup. Mais il y a aussi des contestations, dit non. Enfin, voilà, ça fait partie des choses qui méritent qu'on s'y attache plus. Tant cette histoire de Rwanda nous concerne, nous regarde et comment nous n'en avons pas fini, évidemment, avec ce Rwanda. Pas seulement à travers les relations entre le Rwanda et la France et la responsabilité de la France durant ce génocide qui est un dossier évidemment important, mais qui ne doit pas nous faire oublier les autres causes, parce qu'après tout la France elle est présente dans d'autres pays où il n'y a pas eu de génocide, et à chaque fois qu'on essaye de trouver les causes de ce génocide, on dit bah il y avait ça, alors c'est à cause de ça, oui mais non, il y a un autre pays où on a ça et ça n'a pas donné la même chose. Alors la combinaison de tout ça, je crois qu'on n'a pas encore mis cette histoire au clair. Il faudra encore très très longtemps avant de comprendre ce bloc d'abîme qui est tombé pas seulement sur le Rwanda, mais sur le monde. Et quand je dis Rwanda, je pense aussi aux alentours, aux métastases qui continuent de ronger et de pourrir cette région des Grands Lacs. Vous avez compris, on est au Rwanda, 20 ans après, et on va s'intéresser à l'Église. L'Église a eu un rôle énorme au Rwanda. depuis que les Allemands sont arrivés, depuis que les Belges surtout se sont chargés de la tutelle du Rwanda, l'Église, les Pères Blancs se vantaient d'en avoir fait le pays le plus catholique d'Afrique, et les écoles, et les hôpitaux, et les terres, les deux tiers des terres appartiennent à l'Église, et puis surtout ces liens étroits avec le pouvoir, l'Église catholique tenait le pays à 90%. Alors, si des prêtres durant ce génocide ont en effet défendu courageusement les fidèles, si d'autres prêtres et des évêques ont été eux-mêmes victimes, les enquêtes et les témoignages montrent qu'une partie de l'Église a participé au génocide. Et il y a des condamnations, vous le savez, qui ont été prononcées. Il y a des poursuites, vous le savez, qui sont en cours, notamment contre des prêtres réfugiés en France et qui continuent, pour certains, d'exercer paisiblement parmi nous leur sacerdoce. Alors, voilà, la justice française traîne les pieds et l'Église se lave les mains. Voilà des choses qui entraînent la souffrance des Rwandais, qui sont, comme tous, et sans doute eux plus que d'autres en ce moment, et depuis 20 ans, avides de justice. Et la justice française et l'Église pourraient faire avancer ce sentiment de justice et quelque chose qui puisse lui ressembler, tant qu'il est difficile d'imposer la justice dans ce pays. La justice est synonyme de défi au Rwanda. Et là où nous allons, devant l'église de la Sainte Famille à Kigali, au lieu des massacres, on rencontre un garçon qui est devenu fou. Il a une énorme cicatrice sur le crâne. Il y a 20 ans, il avait 13 ans. Il a 33 ans aujourd'hui. Et voilà 20 ans que ce garçon erre devant cette église. Ça pourrait être notre symbole du jour, l'église responsable. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Chers auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et ses environs, on vous attend nombreux le mercredi 7 mai à partir de 19h au Café Les Ramblas, 40 boulevard Gambetta à Nîmes. Nous aborderons et discuterons de tous les sujets mis à l'ordre du jour par vous-même. A bientôt, Roland Dugard.
Salut Daniel, c'est encore Alain, hein. C'est pour dire que voilà, une fois n'est pas coutume, je téléphone pour présenter mes excuses au Ku Klux Klan américain. Je pensais que c'était une bande de dégénérés tarés et immondes, mais là j'ai appris hier justement en écoutant France Inter qu'un de leurs membres éminents, si je peux m'y exprimer ainsi, s'est fait attraper à l'arrière d'une voiture en train de faire l'amour avec un noir travesti en femme. Alors voilà, je croyais que c'était des cons, mais là je suis content de voir que enfin il se présente sous un aspect un peu plus humain. Alors je précise, hein, je suis sympathisant de la cause homosexuelle, mais en aucun cas pratiquant. Hein. Voilà, mais enfin ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Bon voilà, mes excuses au clan, hein, mes excuses.
AMG du Limousin, n'oubliez pas le rendez-vous mensuel du repère de Limoges, c'est mercredi 7 mai à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins. L'actualité est suffisamment riche pour nous donner du grain à moudre. On vous attend de pied ferme. Salut.
Abandi bino bisaye kugira ngo igitambo cyanjye na cyo cyanyu n'Imana azashobora byose.
Il n'est de grande cause qui fait que je reviens pas à l'église, c'est ce qui s'est passé ici.
Cette famille.
Et
les ont menés à la fosse et ils les ont tués. Parce qu'après le génocide, on a exhumé un peu plus de 700 cadavres. Et la moitié de ce monde-là était à l'église Sainte-Famille. Plus de la moitié.
Baruch Evri Christu, Pudrango,
la veille de la prise de Kigali, le prêtre rentre dans l'église, Mounia Chaka, il dit, si même il y aurait un cafard qui a survécu, il n'y en a pas beaucoup.
Et il est où aujourd'hui? Il vit où aujourd'hui?
Ils nous disent qu'il serait en France et qu'il est toujours prêtre.
Cette famille.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base. J'y suis avec Guy Ventil, Rwanda, 20 ans. Je te coupe la tête à midi.
Flight number 2, arriving from...
Ça, c'est le monument qu'ils sont en train de construire.
Non, mais c'est une situation formidable dans laquelle on se trouve. Là, il y a des gars qui sont en train de creuser, tailler des pierres, faire un ciment. Il y a un gars qui est en train de travailler derrière nous avec sa pelle et ses pieds nus, en train de préparer un ciment. Et là, on est en train de construire un mur. Et c'est le mur sur lequel on va inscrire les noms, la liste interminable des noms des morts, des victimes de la paroisse de la Sainte Famille. Tout le monde se souvient en France, j'espère au moins pour ceux qui ont un certain âge, de ces images en 1994 venues d'ici, de cet enfer, de cette horreur qui ont été les massacres qui ont duré des jours et des jours en plusieurs fois. Mais aujourd'hui, 20 ans après, on construit enfin un mur. Mais ce qui est très beau, c'est derrière. C'est ce qu'on voit sur ce parking. Enfin, c'est un parking sur cet espace devant l'église. Il y a là-bas des gars qui nettoient les voitures, mais qui en profitent tout en les nettoyant pour ouvrir les portes et faire un maximum de musique et écouter la radio. C'est vachement gay. Et là, il y a un match de foot entre des gars habillés en bleu. Je ne sais pas ce que c'est.
Les laveurs de voitures.
C'est les laveurs de voitures. Ils jouent vachement bien, t'as vu, avec leurs bottes en caoutchouc et leur espèce de gros ballon qui a l'air d'être... Regarde ça comme ils jouent bien. Ils sont vachement beaux. Là en bas, il y a Kigali, qu'on voit toujours magnifique, vu de haut. On est quand même un peu loin maintenant, il va falloir qu'on suscite des témoignages sur les horreurs qui sont passées là. On se demande si on en a vraiment encore envie, quoi. On se demande si... Effectivement, on se fait gagner par cette idée de réconciliation qui permettrait de tourner la page, quoi. On ne sait pas comment faire. Enfin, surtout si on se met à la place de nos amis, entre la réconciliation et puis ne pas oublier, tourner la page, vivre enfin, sortir de cette mémoire terrible.
Il y avait des signes annonciateurs, mais nous, on n'a pas vraiment pris ça en considération. On ne s'imaginait pas un voisin venu tuer un voisin, aller tuer des enfants, aller tuer tout le monde. On ne pouvait pas s'imaginer ça.
Ces gens-là sont vraiment une sale race. Je ne sais pas comment Dieu pourra nous aider à les exterminer. Il faut s'en débarrasser. C'est la seule solution. Voilà ce qu'on pouvait entendre il y a 20 ans, exactement 20 ans, sur la radio des Mille Collines au Rwanda. Je me souviens que nous longions la frontière avec le Rwanda du côté de la Tanzanie et nous entendions cette radio à bord de la voiture. Et je disais à notre ami Salvator, notre traducteur, dit, quelle belle langue, hein, le Kinyarwanda, ça chante bien. Il m'a regardé en me disant, si tu savais ce que ça raconte. Et il m'a traduit, et c'était cette radio qui a vraiment téléguidé, organisé le génocide. Dieu, aussi longtemps que nous resterons unis pour combattre cette vermine, Dieu sera à nos côtés, Jésus nous aidera à les vaincre. Vous qui êtes au front, tenez bon, la Vierge est avec vous. La musique de la radio des Mille Collines pendant le génocide était souvent une musique religieuse. Dieu et la Vierge Marie étaient du côté de l'idéologie Hutu dans la presse du pouvoir. Par contre, la caricature présentée portait le FPR avec des cornes et une queue de diable. J'évoque ça parce que on va parler de l'Église. L'Église est toute puissante, était toute puissante. Au Rwanda, depuis l'arrivée des colons, elle a été vraiment, l'Église catholique a été vraiment l'instrument de cette domination à tous égards, je le disais en commençant. Il s'est passé quelque chose de particulier au Rwanda, c'est que ce tout petit pays était un royaume avec un monothéisme. Il n'y avait qu'un seul dieu, une religion organisée, mais comme les nôtres, monothéiste, à la différence des autres pratiques religieuses rencontrées par les missionnaires dans d'autres pays à coloniser. Dans ces pays, je pense par exemple, je prends au hasard Haïti, eh bien il y a eu un syncrétisme entre le vaudou et ses dieux multiples, et puis l'Église catholique avec son seul dieu apporté par les missionnaires. Et ça crée un syncrétisme, c'est-à-dire que le bon Dieu, Jésus, la Vierge Marie, tout ça, ça s'est rentré dans le panthéon vaudou. Là, ça n'a pas été du tout la même chose. L'Église catholique, imposée par les pères blancs, a entièrement remplacé la religion du Rwanda. Et donc a donné tout le pouvoir à cette Église. Et donc il y a une grande responsabilité de l'Église catholique, notamment celle des Pères Blancs, du Christ Roi, dans ce génocide. Ça n'est pas toute la responsabilité, c'est une part importante de la responsabilité. Et il appartiendrait à l'Église catholique de regarder ça en face et de dire ce qu'elle en pense. Mais on sait de quoi il retourne. L'Église catholique dit « Ah, mais nous nous rangeons derrière la justice ». Alors la justice, pour ce qui concerne la France, il y a plusieurs prêtres condamnés parfois dans leur pays au Rwanda pour génocide ou devant des juridictions internationales qui sont condamnés ou qui sont poursuivis et qui vivent très tranquillement en France. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Rwanda a 20 ans, je te coupe la tête à midi. Le plus grand défi du Rwanda, c'est la réconciliation. Tout ce qu'on a rencontré, nous, tout ce qu'on rencontre, comme gens qui disent « Ah mais non, mais ça y est, il a fait de la prison, on a pardonné, on s'arrange pour vivre les uns à côté des autres, on essaye de s'entendre, et puis tout pousse à la réconciliation. » On comprend la logique de tout ça, la logique, on va dire, politique de tout ça. C'est vrai, la justice est incapable de faire une justice comme on l'a fait ailleurs, parce que c'est un défi pour la pensée, pour la civilisation, incroyable, incroyable. Mais quand même, moi j'arrive pas à comprendre comment on peut se réconcilier. Et tu nous as raconté une histoire, celle d'un gars que tu connais, qui lui n'a pas accepté la réconciliation, et qui a essayé de faire justice lui-même. Je me souviens du début de l'histoire que tu nous as racontée. Il s'était caché en haut de l'avocatier.
Il est monté dans un avocatier, les tueurs ne se sont pas rendus compte qu'il était là.
Ouais.
Il aurait été tué aussi. Donc un des tueurs, je ne sais pas quel problème il avait avec le papa d'Alfred, il lui a dit, oui, vous me le gardez, je le tue à la fin. Ou alors à la fin, je pense qu'on l'a tenu, et lui, il a eu le temps de lui couper la tête, il a joué sa tête comme si on jouait à la balle, il a envoyé sa tête dans la rue. Et le garçon regardait ça.
Du haut de son avocatier.
Et long, quelques années après, le tueur revient, et le garçon l'a vu, il n'a pas supporté, il n'a pas accepté comment ce gars est en train de se balader. Et il lui a dit, je lui ai dit, tu te souviens, tu avais coupé la tête de mon père, tu l'as envoyé sa tête dans la rue, je vais faire pareil. Il a cru que c'était une blague. Et au bout du temps, disons, je pense une semaine après, il lui a dit, dimanche, je viens couper ta tête. Et si tu as à dire à tes enfants ou je ne sais pas à qui, fais ton testament, fais ce que tu veux, je viens couper ta tête. Il a cru que c'est parce que le garçon était énervé. Il est allé au marché, il a acheté la machette, il a bien aiguisé la machette. Et samedi, il lui a dit, dimanche, c'est midi, je te coupe la tête à midi. Midi, il n'est pas venu, 13h, il n'est pas venu, 15h, il n'est pas venu. Le gars, il a dit, bon, c'est parce qu'il était énervé, il est allé dans un bistrot à côté. Et le garçon est arrivé, il lui a dit, voilà, je m'excuse, je suis en retard, mais je viens pour l'histoire, là, je t'ai dit que je te coupais la tête. Et tout le monde, quand ils ont vu la machette, ils ont pris fuite. Il est resté qu'avec lui seul. Alors, quand il voulait lui couper, le gars il a essayé de prendre la machette. Il a tiré la machette, ça lui a coupé les doigts, il est tombé par terre. Il a fait pareil ce qu'avait fait le gars de son père. Il lui a coupé la tête. Il a envoyé sa tête se balader dans la rue. Bon, la police est arrivée, il a été arrêté. Il a dit, moi, j'ai fait ce qu'il avait fait, donc ne me tape pas dessus. Je veux que justice soit rendue. En plus, je n'ai pas fait ça exprès parce que je n'ai pas pu supporter. Bon, finalement, il a été arrêté, il est en prison.
Pour combien de temps?
Je pense qu'il avait pris 15 ans d'emprisonnement parce qu'il avait dit qu'il a accepté tout ce que la justice lui a demandé. Ouais, tu as fait ça, il a accepté qu'il avait fait et vraiment il a fait ça, il voulait le faire.
Avec préméditation.
Ouais, voilà.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, de gens qui ont fait la justice eux-mêmes?
Je pense qu'il y en avait eu tout au début du génocide, mais après, la police était là et maintenant, tout est contrôlé. On ne peut plus faire ça, c'est fini, c'est trop tard.
Et là, on est devant cette église dont le nom est lié à l'horreur totale pour Kigali et pour le Rwanda, l'église de la Sainte Famille. Devant nous, c'est un bloc de briques rouges, énorme bâtiment, avec une énorme croix en carrelage, j'ai l'impression, qui domine la façade du bâtiment. Là, c'est le soir, il y a la lune au-dessus, une pleine lune, avec des nuages, de la vie tout autour de Kigali. Et là, on est avec Épaphrodite. Toi, tu es un des témoins. Tu étais dans cette église il y a 20 ans.
À l'époque, j'avais 25
ans.
Je suis arrivé le 14 avril
1994.
Je suis venu ici parce que je me disais que c'était la maison de Dieu. Il
n'y
aurait personne qui va être tué dans la même maison.
Parce que toi, non, tu venais de quel quartier?
Je venais du quartier qui s'appelle Muhima. Toute ma famille venait d'être tuée, même à côté, parce que moi je louais une maison à côté. Même les gens qui habitaient avec moi, même les gens de tout le quartier, tous les Tutsis du quartier venaient d'être tués. Je suis le seul qui a réussi à s'enfuir pour essayer de venir ici.
Tu étais le seul survivant du quartier et tu t'es enfui. Donc, tu es arrivé ici. À l'église de la Sainte Famille. À quoi ça ressemblait quand tu es arrivé?
Il y avait bashaka kugerageza kuza guhungira muri rusengero.
Quand je suis arrivé ici dans la cour vous voyez ici. C'était plein de cadavres.
Noneho bagasanga Padre Wenceslas yamaze yarafunze imiryango nta muntu ubasha kwinjiramo imiryango yashyizeho abasore be babafite imbaraga ba bodyguard b'ubwoko bw'abahutu nibo bari ku miryango.
Parce que le père Wenceslas Munyeshyaka avait déjà fermé l'église et personne ne pouvait plus entrer dans l'église. Donc voilà, je suis arrivé ici, c'était plein de cadavres.
C'est-à-dire que tu arrives là, sur la place au-dessus de nous, sur le rond-point, il y a des cadavres. Dans la cour ici, il y a des cadavres. Toi, tu cours te réfugier quand même dans l'église. Et dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés. Et là, le père Wenceslas arrive.
Il y a tout qui est dans la Kiliziya. Pour le Seigneur, tu as tout qui est dans mon boga, les mêmes boga. Alors, tu as tout qui est dans la Kiliziya. Tu as tout qui est dans la Kiliziya. Tu as tout qui est dans la Kiliziya.
Alors, Munyeshyaka est arrivé. Le père Wenceslas, il a essayé de faire rentrer tout le monde à l'église. Uh-huh. Même les gens qui ne pouvaient pas, il nous a poussé de rentrer dans l'église. Alors, il a dit, voilà, le moment est venu. En fait, il est arrivé avec des inhéramouais. Alors, il commençait à choisir les gens qui étaient forts, c'est-à-dire les jeunes, les gens qui avaient la capacité de se battre.
Hakurikiyeho igikorwa cyo gutoranyamo n'abasore bafite imbaraga bakajya babapakira bajya kubicira muri rugenge ahantu hari hateguwe ibyobo babarundagamo.
Alors il les amenait derrière l'église, c'est dans un quartier qui s'appelle Rugenge. Il y avait des fosses, c'est là où ils allaient tuer les gens.
Il a commencé par faire tuer les jeunes costauds qui auraient pu résister.
Et là, tout ngo mwebwe inkotanyi zirimo bakuru banyu babyara banyu baso wanyu n'inshuti zanyu nibo bari kuturasa.
Il nous disait, les inkotanyi, c'est-à-dire les militaires de FPR, parmi eux, il y a vos frères, vos cousins, vos oncles, vos grands frères.
Namwe tugomba twamaze kumenya kuko namwe muri zo namwe muri inyenzi tugomba kubica.
Et nous, on a su que vous êtes aussi des cancres là, on va vous tuer.
Toi, t'étais où? T'étais parmi ceux-là? T'étais parmi ceux qui allaient être tués, toi?
Parce que t'avais 25 ans à l'époque.
Oui, moi j'étais aussi parmi les gens qui voulaient prendre. Avant de partir, ils liaient les gens par les chemises. Pour que quelqu'un ne puisse pas fouiller. En fait, ils avaient deux petites camionnettes, deux pick-up. Ils venaient, ils remplissaient les deux pick-up. Ils allaient mettre, jeter les gens, les tuer, les mettre dans la fosse. Ils revenaient. On a passé toute la journée à l'église en train d'attendre que notre tour soit venu. Et moi, je devais venir me chercher à 15h.
Donc, vous attendiez votre tour d'être exécuté.
Moi, on nous avait tous gardés à l'église. Les pick-up venaient, ils prenaient les gens, on nous gardait à l'église. L'église était entourée des tueurs, des inhéramouais. Il y avait une femme qui était conseillère du secteur ici. Il y avait le commandant militaire ici. C'était verrouillé. Et moi, donc mon tour vient, c'est à 15h, ils m'ont mis dans le pick-up comme tout le monde.
Et
juste à l'asphalte, là, à la route, j'ai réussi à me détacher du jeune avec lequel j'étais, j'ai sauté du pick-up. Et derrière moi, on a tiré, mais ils ne m'ont pas eu.
Et donc, tous les autres ont été tués.
Ils les ont menés à la fosse et ils les ont tués. Parce qu'après le génocide, on a exhumé un peu plus de 700 cadavres. Et la moitié de ce monde-là était à l'église Sainte-Famille. Plus de la moitié.
20 ans. C'était il y a 20 ans. Alors le père Wenceslas Munyeshyaka est un personnage célèbre au Rwanda, mais aussi célèbre pour tous ceux qui s'intéressent à la justice et au rôle de l'Église pendant le génocide. Le père Wenceslas Munyeshyaka, répétons-le, il officiait au moment du génocide rwandais dans cette paroisse. Il faut rappeler qu'il est accusé par le TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, et par des rescapés, dont notre ami Épaphrodite qui est en train de s'exprimer. rescapé, accusé, l'accuse de génocide, d'avoir organisé plusieurs massacres, notamment parmi les Tutsis réfugiés dans sa paroisse, et d'en avoir tué plusieurs lui-même. Ensuite, il a réussi à fuir. Il est passé par Goma, par le Congo. Il a réussi à s'installer en France avec l'appui de l'Église de France. Il vit aujourd'hui en exil en France depuis septembre 1994, en particulier à Gisors, en Normandie depuis 2001, où il officie comme prêtre et il a été aumônier des scouts de France. Il a été arrêté à Bourg-Saint-Andéol et mis en détention le 28 juillet 1995. Il a été libéré le 10 août 1995 sur décision de la Cour d'appel de Nîmes, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Venceslas Munyeshaka a été interpellé à Gisors le 20 juillet 2007, puis libéré le 1er août 2007, arrêté à nouveau le 5 septembre 2007 sur la base d'un deuxième mandat d'arrêt du TPIR. Il a été à nouveau remis en liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris le 20 septembre 2007. Cette seconde remise en liberté a été qualifiée de péripétie judiciaire par le porte-parole du TPIR. Donc on voit que c'est une affaire compliquée, que c'est on a des témoignages qui sont qu'on ne doit pas mettre en doute, mais par exemple quelqu'un comme Pierre Péan, dans son bouquin Noir Fureur, Blanc Menteur, prend la défense du père Munyeshaka et apporte lui aussi des témoignages. Et selon un très bon connaisseur du dossier rwandais, c'est un dossier pourri.
Il y a cette politique de diabolisation de l'Église. Bon, le seul contre-pouvoir, c'est l'Église au Rwanda.
Père Venceslas Munyeshaka, 1995.
Puisqu'on ne peut pas chasser l'Église, bon, on s'en prend à certaines têtes. Comme ça, nous sommes des échantillons pour humilier l'Église et le réduire au silence. C'est plutôt un problème politique. Sinon, moi je le dis clairement que je défends un bilan. Je défends un bilan. Ces ONG qui crient sur moi ou cette presse n'était pas là. Je pose la question à ces gens-là. Qui a sauvé au moins une personne? Qui a sauvé au moins une vie? Au moins une personne? Moi, j'ai tout un peuple qui a survécu grâce à notre action.
Ce père Venceslas, là, on le voit en photo avec son gilet pare-balles et son revolver. Est-ce que tu l'as vu dans cet accoutrement il y a 20 ans?
Cyane kuva twahagera yaritwaye igisirikare yari na pisto yarafite pisto akagira n'imbunda yo mu bwoko bwa yo ngufi bitaga batwaye ngo nawe uzi.
Oui, depuis que je suis arrivé ici, je l'ai vu beaucoup de fois. Il avait toujours son gilet pare-balles, il avait un pistolet, il avait même une autre arme que les gens disaient que ça s'appelait Uzigan.
Fusil mitrailleur aussi.
Non, kubera ko rero hageze igihe ubwicanyi bwasa nk'ubuhagarara mu gihe cy'amezi abiri kuko ubwicanyi bwongeye.
Alors il rentre à l'église habillé comme ça. Même le dimanche, il venait lire la messe comme ça, habillé comme ça. Donc voilà, je l'ai toujours vu habillé comme ça.
France 3, 13 juin 1994.
Le père Venceslas ne quitte pas son gilet pare-balles et tient sur un autre ton un discours très différent.
Bon. Pour, à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de miliciens.
Pas de miliciens. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur.
À l'intérieur?
Non.
Écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui réponds. Bon, pour à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de miliciens qui vit là ou qui vient traumatiser les gens. Ceux qui entrent avec une arme, avec l'agressivité, on peut même la battre. Maintenant, c'est un ordre, c'est clair.
Un ordre de qui?
De l'état-major de l'armée rwandaise.
Vous êtes armé?
Moi?
Oui.
En tant que prêtre?
Est-ce que vous êtes armé, vous?
Bah écoutez, moi j'ai une arme, oui. On ne sait jamais.
Bon, c'est des fous, lui, hein.
Hein?
C'est un fou.
Oui.
Le garçon que vous voyez là-bas,
Il a été découpé à la machette, il est devenu fou. Et depuis, il est resté ici.
Ah oui, il a une balafre sur le crâne, là.
Il a un coup sur la tête. C'est un jeune garçon, hein.
Avec l'air un peu hagard.
Il est fou, hein. T'as vu ? Il l'a mis sur le côté, le garçon ne bouge plus. Il le regarde de façon totalement ahurie, c'est bouleversant ce qu'on voit là.
Le garçon, on était ensemble ici. Il a été coupé à la machette. Il a un coup de
taille.
Ouais.
Un
coup sur le crâne. Ouais. Et ça, c'était le 17 juin, quand ils ont tué pour la deuxième fois. Et depuis, il est devenu fou. Il reste ici, là-bas, il a plus bougé d'ici.
Ça fait 20 ans qu'il erre ici.
Il était jeune, c'était un enfant à l'époque.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit, c'était un petit garçon, lui il a dit, il avait 13 ans.
J'avais 13 ans. Tu m'es
13 ans.
Allez, on le regarde, ce garçon-là. C'est le fantôme du massacre.
Et donc, quand on se disait que peut-être on ne va pas nous voir, on est allé à l'église. Le prêtre rentre encore une fois dedans, le prêtre Wenceslas Munyeshyaka, avec le commandant militaire et la femme qui était conseillère, conseiller de secteur. Il était avec quelques généraux à moi. Il nous a encore vus. Il a choisi 19 jeunes qui voyaient qu'il était encore solide et j'étais encore parmi les 19.
Oh, mais combien de fois tu as failli mourir ? C'est
une fois que tu as échappé à la mort.
Combien de fois c'est.
Ce jour-là, donc nous sommes 19, il nous trouve encore. Il nous a dit de rester là. Il nous a mis dans le bâtiment qu'on appelle la procure, ici derrière l'église. Il nous a demandé de s'asseoir là. Après, il allait chercher un pick-up. Il nous disait qu'il nous amenait à l'état-major de l'armée ici. Parce que c'est nous qui étions en train de tirer sur tout le monde à Kigali. Alors, on y va, on arrive au grand rond-point que vous voyez là-bas. Je me suis dit, toutes les façons, je ne sauve rien. J'ai encore sauté du pick-up.
Encore ?
Oui. Je suis revenu en courant. Je suis encore rentré dans l'église. Il y avait beaucoup de femmes qui m'ont couvert de pagne et se sont assises sur moi.
Ah, elles t'ont caché, quoi.
Oui, caché, mais assis sur moi. Les femmes nous ont donné leurs habits de femmes. On se faisait passer pour les femmes.
Ah, tu t'es déguisé en femme ?
Et vous, mon gars ?
Oui.
Là, on est 20 ans après. On est sur cette place, devant cette église Mastok, avec cette croix Mastok, avec ce ciel magnifique au-dessus et la pleine lune. Avec ce garçon qui est derrière, qui, il y a 20 ans, a pris des coups sur la tête et depuis 20 ans, erre dans cet espace, sur cette place, devant cette église, parce qu'il est devenu un peu fou. Est-ce qu'aujourd'hui, tu retournes dans cette église ?
Je ne viens plus à l'église, vraiment. Une des grandes causes qui fait que je ne reviens pas à l'église, c'est ce qui s'est passé ici. Depuis 20 ans, je suis venu dans cette église que deux fois, et c'était pour des messes de requiem. Parce que quand je rentre dedans, je vois tous les souvenirs reviennent. Même quand je suis rentré dedans, ces deux fois que je suis venu à la messe de requiem, je n'ai pas passé beaucoup de temps parce que j'y arrive pas.
Et c'est vrai que depuis que tu es là à nous parler, tu tournes le dos à cette église.
Même, vous avez remarqué des fois quand je regarde à l'air, parce que même si je regarde la cour, ça revient.
Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu as une famille ? Tu as des enfants ?
J'ai pu me marier après. Je suis père de 3 enfants. 14, 8 et 5.
Hagati aho ngaho n'ubu ngubu ku buryo ideni rikomeye numva mfitiye
Mais je pense qu'aujourd'hui, l'une des récits de ma vie, c'est que je me suis toujours battu pour qu'on mette un mémorial ici. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, maintenant l'église est d'accord, à partir de demain, on va commencer à construire un mur là-bas sur lequel on va mettre les noms des gens qui ont été tués ici. Et quand j'aurai vu ce mur-là avec les noms dessus, ça va être le meilleur jour de ma vie.
D'accord. Donc, ça fait des années que tu fais partie de ceux qui se battent pour qu'enfin il y ait un mémorial ici, une trace de la mémoire de ceux qui sont morts ici. Et là, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on va construire un mur, ici, là, en surplomb, entre cette place que tu avais découverte pleine de cadavres et l'autre place, le rond-point plein de cadavres, entre les deux, il y aura ce mur avec les noms de tous ceux qui ont été assassinés ici.
Je m'appelle Barshimana Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. Alors là, on est à l'église de la Sainte Famille. On est juste 20 ans après les horreurs qui se sont produites ici. Toi, tu étais là à l'époque et tu étais enfant de cœur. Est-ce que tu étais enfant de cœur du père Venceslas ?
Oui,
j'étais enfant de cœur du père Wenceslas, oui. Même pendant le génocide de la guerre, j'étais son enfant de cœur. Et je le faisais pour avoir des biscuits parce que c'était presque impossible de manger ici.
Mais comment il était ? Qui c'était comme personnage ?
Pendant le génocide, c'était un prêtre, mais nous, ça nous surprenait qu'il ait un pistolet. Parce que moi, j'étais son enfant de cœur, je le voyais. Quand il devait venir lire la messe, en dessous de son aube, il mettait son pistolet. Et nous, ça nous surprenait qu'un prêtre se balade avec un pistolet, même pour aller lire la messe.
Oui, mais pourquoi il avait une arme ? C'était contre qui ? Il avait peur de quoi ?
Il avait une arme parce qu'il était très ami au colonel qui était le patron militaire ici. Et puis un major qui s'appelle Munyakazi qui était major de la gendarmerie. Et puis il disait que comme ici il y a beaucoup de réfugiés qui viennent ici, parmi eux il y a peut-être des cafards, les Inyenzi comme on les appelait. Donc il avait peur d'être tué.
Les Inyenzi, c'est-à-dire les Tutsis.
Dans sa paroisse, c'est un homme très apprécié.
France 2.
Le père Venceslas est l'abbé de Gisors depuis 10 ans.
Avril 2014.
Une vie tranquille pour un homme accusé d'avoir tué et violé lors du génocide au Rwanda. Poursuivi par le tribunal pénal international, condamné à la prison à vie dans son pays, il a pu s'installer en France sans difficulté.
Vous ne voulez pas qu'on vous parle du passé ?
Non, moi j'envisage l'avenir, c'est ça qui était très intéressant. L'avenir, le travail pastoral, le témoignage de ma foi, c'est ça qui est très important pour moi.
Le père Wenceslas était là, ça c'est ses bureaux, juste en face de nous là. Ouais. Et derrière il y avait sa maison, à l'intérieur, dans le couvent. Il était toujours dans sa maison, mais il sortait, quand les militaires arrivaient, pour venir chercher les gens à tuer, il venait toujours avec eux.
Mais il y avait d'autres prêtres dans cette paroisse. C'était quoi les relations entre le père Venceslas et les autres prêtres ?
Nuko badushagara ko wabonaga batabanye neza nkubwo ngubwo wari padiri mukuru waho yayishe muri Saint-Paul ko ntago Venceslas yaraza hari uko tuzngenza niwe waruhari ni wasomeraga na misa niwe wabonaga yabaye padiri mukuru ariko padiri mukuru ko yari umututsi we yayishe muri Saint-Paul.
Tu sais, même s'il ne le disait pas, mais ils n'étaient pas en bon terme avec le père Venceslas. Par exemple, Venceslas n'était pas curé de la paroisse, c'était juste un prêtre. Tu vois, le père Anacrète qui était curé de la paroisse était Tutsi, il avait disparu. Il était allé se cacher derrière ici, dans c'est l'ancien séminaire qui s'appelait Saint-Paul. Et donc, c'était brusquement, c'est le père Wenceslas qui est devenu curé parce que l'autre se cachait.
L'autre se cachait, avait laissé tomber ses paroissiens.
Padiri yari interahamwe urumva yananiye go gufasha mugenzi we mu padiri ari hisha witwa na Crete ndaramwibutse padiri na Crete.
Oh, comme le père Wenceslas était une interahamwe, il a même pas voulu cacher son confrère.
Et tu es toujours catholique toi aujourd'hui?
Non, j'ai changé.
Merci. Merci Epaphrodite, merci à tous, merci à Jean-Baptiste.
Donc, toi, tu t'en es sorti, tu t'es retrouvé avec le FPR, tu as survécu. Qu'est-ce qu'il est devenu, selon toi, le père Venceslas ?
Ah, ok. Pourquoi, à quel moment, tu as appris au Cabo du Mouin, quand tu as appris au Cabo du Mouin, quand tu as appris au Cabo du Mouin, France ?
À chaque fois qu'il y avait des commémorations, on en parlait. Apparemment, il serait en France. Quand on avait commencé à juger les gens, même pendant les gachacha, il avait fui déjà. Je pense que s'il avait été ici, on l'aurait attrapé. Nous-mêmes, nous l'aurions attrapé.
Et Jean-Baptiste, Mouniachaka, tu as raison, il est en France. Il est toujours prêtre et il a toujours une paroisse à Gisors, en Normandie, où il a des paroissiens qui ne veulent pas croire ces histoires-là. Qu'il disait, c'est pas possible, il est tellement gentil, il est tellement proche des gens, il fait le catéchisme avec les enfants.
Icyo nababwira cyambere, wenda bafite nka kwa kundi bagira inama y'ubutegetsi ya Eglise yabo, bashobora kuzana groupe, ni groupe bakaza kabona n'abacitse ku icumu banga bakababwira ukuri. Ikindi bakora,
vous savez, dans chaque église, ils ont une organisation qui forme un groupe qui vient du comité de la paroisse là il est, qui viennent ici, qui rencontrent les gens qui étaient ici. Ils leur diront qu'est-ce qu'il a fait vraiment.
Ce qui est formidable, on entend derrière nous, dans l'église, parce qu'on est assis le long de cette église, sous ces murs de briques qui sont vraiment significatifs, liés à l'image du génocide et des massacres, on entend des fidèles qui préparent Pâques et qui sont en train de chanter. Sauf que toi, tu as interdiction de rentrer dans l'église.
Merci donc Jean-Baptiste, merci Epaphrodite. C'était Rwanda 20 ans, je te coupe la tête à midi, un reportage de Guy Anquetil et de votre serviteur. Ali Rwanda, l'honneur perdu de l'Église, un dossier de Goliath que vous pouvez retrouver sur le site des éditions Goliath. J'ai cité le livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur, qui consacre un bouquin de 2005, qui consacre un chapitre assez surprenant à l'histoire de l'abbé Venceslas. À voir également Rwanda des prêtres accusés, un documentaire de Mathieu Sarfati et Jean-Pascal Bublex, qui a été diffusé récemment dans le magazine Pièce à conviction sur France 3, le 23 avril dernier. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Enzo Labori. Au montage, Guy Vanctil et Jonathan Duong. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer et Stéphanie Fromentin. attend vos messages sur le répondeur de la basse JSU au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Demain, on continue au Rwanda. On se retrouve donc à 15h sur France Inter. Dans l'immédiat, je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au Sénat, où se déroule la deuxième journée nationale de l'écrivain public. Et donc sont réunis une petite centaine d'écrivains publics dans cette salle. Et monsieur, vous voulez bien me parler ?
Non, merci.
Vous n'avez pas le droit de parler ?
Non.
C'est horrible, ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de compassion pour les gens qui n'ont pas leur liberté de parole. Vous avez votre liberté de parole ?
Oui.
Ah oui, mais vous pouvez parler au micro, alors.
Bah oui, que je vous dise quoi ? Moi, ça me concerne pas, là. Je suis juste là pour faire l'accueil, hein. C'est tout ?
Oui, mais vous pourriez avoir une idée ou une opinion sur l'écrivain public.
Bah, je pense que c'est bien utile pour tous les gens qui sont illettrés, ça, c'est clair. Voilà.
Et est-ce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien un jour passer par un écrivain public ? Parce qu'il y a des écrivains publics qui rédigent des biographies. Vous voudriez faire raconter l'histoire de votre père ou faire raconter votre histoire ?
Bah, je ne savais pas que les écrivains publics ils pouvaient faire des biographies aussi, vous me l'apprenez. Donc, j'y ai pas réellement pensé, mais oui, pourquoi pas, en fin de compte.
Bah, ouais. J'ai bien fait de venir.
Exactement, je vous remercie.
Je parle votre prénom ?
Frédéric.
Merci Frédéric. Et donc, votre fonction, c'est
Agent parlementaire au Sénat. Donc, je fais l'accueil et puis le vestiaire et je surveille la salle que les gens qui sont en réunion ne soient pas dérangés non plus.
Bon, merci. Et vous, madame, vous faites quoi ?
Bonjour, Sylvie Montaillé. Je suis administratrice de l'Académie des écrivains publics de France.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée, en tant qu'administratrice ?
Beaucoup d'organisation.
J'imagine.
Non, c'est un grand plaisir puisqu'on peut enfin réunir des professionnels, des confrères, des consoeurs qui sont d'habitude très isolés, puisqu'on est très isolés dans notre travail, on exerce seul aux quatre coins de la France. Donc c'est un grand plaisir de les réunir et de pouvoir débattre de sujets très importants, quatre grandes thématiques, qui sont donc l'illettrisme, les nouvelles technologies, la biographie et l'aide à l'entreprise.
Est-ce que justement, à rédiger comme ça des biographies, vous avez été confronté à des histoires extraordinaires et vous vous dites « Ah, mais ça pourrait faire un magnifique roman, un magnifique film ?»
Complètement.
Ouais.
Tout le temps.
C'est vrai ?
Oui. Bah, oui.
Racontez-moi une histoire qui vous a touché récemment.
Je ne sais pas, parce que je ne peux pas. Mais on est tenu au secret professionnel, ce serait un grand mot, mais la confidentialité en l'occurrence.
Il y a un site, j'imagine ?
Oui, donc le site de l'Académie, qui est www.écrivain-public.fr. Donc vous pourrez trouver tous les renseignements sur l'agrément, sur le métier, sur les professionnels à votre service. Voilà.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous faites quoi ici ?
Là, je représente l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin ?
Oui, j'ai appris qu'on a beaucoup à faire avec les écrivains publics. Ces personnes qui sont en situation d'illettrisme, ce sont aussi des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur accès aux droits. Et dans ce qui était expliqué ce matin, je crois que c'est l'un des intervenants qui disait qu'il avait recensé 130 situations qui, sur une année, dans la relation qu'on peut avoir avec les administrations, les institutions, nécessitent le besoin d'écrit. Moi, je donne souvent des exemples très concrets. Aujourd'hui, dans une petite gare, une personne en situation d'illettrisme ne peut pas prendre un billet de train. Il n'y a plus de personne de vivant derrière le guichet qui va pouvoir répondre à la question de la personne, à quelle heure il part, comment je fais. Donc ça, c'est le rôle des écrivains publics, il est important sur cette question-là.
Vous voulez qu'on mette des écrivains publics dans toutes les gares ?
Il y a dans des gares des points info-service d'ailleurs, où les personnes qui y travaillent ont, je pense, cette fonction-là, en fait. Mais ça leur plairait peut-être les écrivains publics d'être dans toutes les gares.
Quelle est la situation de l'illettrisme en France ?
Alors, elle s'améliore, même si elle reste préoccupante. On a réalisé une enquête là, en 2012 avec l'INSEE qui montre qu'on a dans notre pays encore 2 500 000 adultes âgés de 18 à 65 ans qui sont en situation d'illettrisme. Donc je disais qu'elle s'améliore parce qu'on avait fait la même enquête avec les mêmes outils en 2004 et on était à 3 100 000. Ça veut dire que...
On a inversé la courbe.
Voilà, on inverse la courbe. Il y a plusieurs explications. On a l'habitude de dire qu'on a le triomphe extrêmement modeste sur cette question-là parce qu'il y a un effet générationnel puisque que les plus de 65 ans sortent de l'enquête, mais on peut dire quand même qu'il y a une mobilisation alors, depuis quelques années, surtout depuis ces trois dernières années, et particulièrement l'année dernière avec l'illettrisme qui a été labellisé grande cause nationale. Donc on commence à sortir de l'invisibilité, parce que c'est un problème qui est, je disais tout à l'heure en introduction, que les Québécois disaient il y a quelques années, c'est un problème criant qui se tait.
Quelle est la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme ?
Elle est toute simple. Une personne analphabète n'a jamais été à l'école, n'a jamais appris l'alphabet. Une personne qui est en situation d'illettrisme est une personne qui a été à l'école, qui a eu parfois même une scolarité normale dans la durée, hein, qui a passé une dizaine d'années de sa vie sur les bancs de l'école et qui, en sortant de l'école, ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux qui lui permettent d'être autonome dans des situations toutes simples de la vie quotidienne.
Et vous, qu'est-ce qui vous a incité comme ça à vous engager pour lutter contre l'illettrisme ?
J'ai été instituteur, donc j'ai pu être confronté il y a une trentaine d'années au grand mystère qu'est l'apprentissage de la lecture. J'ai été formateur pour adultes, donc ce qui m'a permis de voir aussi après ceux qui peut-être qui étaient passés entre mes mains et qui se retrouvaient en grande difficulté avec la lecture.
Excusez-moi monsieur, mais vous êtes le seul à ne pas avoir de badge. Vous avez une autorisation ?
Ah, il est dans ma poche.
Ah bon. Je suis pas de la police, mais quand même.
On est au Sénat.
Oui, voilà. Mais pas là pour rigoler. Quoi. Et votre nom alors ?
Éric Nedelec.
Bon, en tout cas, je vous remercie.
De rien. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Bon, c'est décidé, ce mois-ci, je me trouve une nouvelle assurance auto.
Eh ben, bon courage, ma chérie.
Ben, pourquoi tu dis ça ?
Parce que tu vas voir, tu peux t'adresser où tu veux, elles sont toutes super chères. Non, franchement, je me demande si le mieux, c'est pas carrément de revendre ta voiture.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. Toutes les assurances auto ne sont pas hors de prix. La preuve, l'assurance auto GMF vous couvre à partir de 13 euros par mois seulement. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Et jusqu'au 31 mai pour ses 80 ans, la GMF peut vous faire gagner un an d'assurance. Pour en savoir plus, allez vite dans votre agence ou sur gmf.fr.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent à partir du 7 mai, après une tournée dans toute la France, Cyrano d'Edmond Rostand dans une mise en scène de Dominique Pitoisé avec Philippe Torreton. Acteur et auteur de sa propre pièce, le Cyrano de Philippe Torreton gagne le droit, scène après scène, d'être ce qu'il est. Un fou si persuasif qu'il faut bien lui donner raison. Retrouvez Cyrano dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Dominique Delarroy.
Berlin estime que le risque d'une confrontation militaire en Ukraine se rapproche et appelle à une nouvelle conférence internationale à Genève. Mais le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pense, lui, qu'une nouvelle conférence sur l'Ukraine n'apporterait pas grand-chose. Et il juge singulier la tenue le 25 mai de l'élection présidentielle, alors même que, dit-il, les troupes ukrainiennes sont déployées contre des civils. Propos tenus à Vienne, où se réunissent les ministres des Affaires étrangères de l'Europe. François Hollande estime pour sa part que si cette présidentielle ne se tenait pas, ce serait le chaos et le risque de guerre civile, alors qu'Angela Merkel trouve qu'il serait dommage que le président russe Vladimir Poutine participe à une parade militaire en Crimée le 9 mai, la Crimée annexée par la Russie. L'UMP vent debout contre la proposition de François Hollande de reporter d'un an les élections régionales, un délai pour réorganiser ces collectivités et réduire leur nombre de moitié. La chef de file des élus UMP en Île-de-France, Valérie Pécresse, y voit un tripatouillage pour éviter à François Hollande une nouvelle défaite. C'est historique, la Suisse et Singapour renoncent au secret bancaire. Les deux pays viennent de signer un accord par lequel ils s'engagent à pratiquer l'échange automatique d'informations bancaires. L'Agence européenne de sécurité aérienne préconise d'étendre de 30 à 90 jours la durée de vie des boîtes noires afin de faciliter leur localisation en cas d'accident. Une proposition qui fait suite à la tragédie du vol MH370 de la Malaysia Airlines, 8 semaines après, les recherches n'ont toujours rien donné. Les surveillants de prison ont manifesté aujourd'hui devant une petite centaine d'établissements pour dénoncer des conditions de travail et de sécurité insupportables. Selon eux, ils réclament des moyens et des réformes de fonctionnement. Semaine jour, une enquête a été ouverte après la plainte d'un détenu qui accuse les surveillants de la prison de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire de lui avoir cassé le bras, entre autres violences. Le prisonnier, décrit comme pas facile, s'est vu reconnaître 45 jours d'incapacité totale de travail. Il a reconnu avoir agressé un matin un surveillant quelques heures après, plusieurs gardiens sont venus l'interroger et c'est là que ça a dégénéré. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a décidé de retarder le calendrier du projet de stockage des déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse, pour répondre à certaines inquiétudes. Au lieu d'une mise en service industrielle prévue jusqu'ici en 2025, l'ANDRA prévoit désormais un démarrage progressif avec une période pilote de 5 à 10 ans avec des colis non radioactifs, puis avec un petit nombre de colis radioactifs avant une montée en puissance. Et ça grogne au journal Le Monde. Les deux sociétés de rédacteurs, celle du journal papier et celle du Monde Interactif, constatent une perte de confiance dans la gouvernance du journal. Cet après-midi, la majorité de la rédaction en chef a démissionné de ses fonctions pour protester contre l'absence de confiance et de communication avec la direction.
France Inter, la nouvelle application pour mobile et tablette tactile. Tout l'univers de votre radio dans votre poche.
France Inter en direct,
où vous voulez,
quand vous le souhaitez.
La réécoute de toutes les émissions et l'accès aux podcasts.
Les dernières actualités de la rédaction en temps réel.
Les vidéos des invités politiques,
des humoristes,
les sessions live.
En téléchargeant dès maintenant sur votre mobile
la nouvelle application France Inter.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Rendez-vous cette semaine dans Live Me Do au Studio 105 pour fêter les 40 ans de carrière des Néerlandais The Nits. Il y aura aussi un des songwriters le plus doué du Royaume-Uni, Nick Mulvey. Et l'énigmatique Bart.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Il est 16h05, on retrouve le carrefour de l'Odéon avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique Delorois et vous, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme prévu, je reçois aujourd'hui Olivier Gardon, qui est pianiste et directeur artistique du Festival du Cloître à Cimiez, c'est-à-dire des concerts de l'Académie de Nice, Académie internationale de musique très très connue. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric. Ah,
vous êtes prof aussi vous-même au conservatoire à rayonnement régional, voilà. Faut dire. Ça fait un petit peu voilà, à Paris. Et puis vous êtes aussi prof dans plein d'académies internationales, franco-japonaises à Kyoto, à Nice bien sûr, déjà cité, à Leipzig aux États-Unis, en Corée du Sud, Courchevel, Palma, Courchevel c'est devenu Tignes maintenant,
voilà.
Villecroze, Mozarteum de Salzbourg, et on peut citer aussi Tokyo, enfin bref, vous êtes un maestro du piano et professeur, c'est une grande part dans votre vie aussi, et maintenant voilà que vous vous occupez des concerts de cette fameuse académie, c'est la 57e édition, c'est quand même pas rien.
Ah oui, ça a été créé en fait en 57 par c'était Fernand Oubradous qui était le premier président.
C'était un bassoniste. Hein,
voilà, bassoniste, et on avait tous bien connu j'imagine.
Il disait, les gens de notre âge, peut-être, ils disaient mon ami Mozart. Il jouait du Mozart, il disait mon ami Mozart, je pense qu'il faut le jouer comme ci, comme ça. Voilà.
Effectivement, puis après, il y a eu donc Alain Marion qui avait repris la direction.
Un flûtiste qui est mort en tournée, malheureusement, beaucoup trop jeune.
Au camp Corée, je crois. Hein,
c'est ça.
Puis donc Jacques Tadei qui a donc repris ça avec.
Grand organiste.
Grand organisateur aussi.
Et organisateur, qui a été d'ailleurs patron de la musique ici à Radio France.
Tout à fait, et qui a créé notamment le CRR de Paris, qui avait créé des tas de choses. choses, parce qu'il était vraiment un grand organisateur. Et donc, malheureusement, il nous a quittés de manière très brutale. Et donc, c'est Hubert Tassy, qui était son adjoint pendant très longtemps et qui connaissait tous les rouages de l'Académie, qui a repris donc la présidence et qui m'a demandé de m'occuper de la direction artistique. Alors, moi, je suis niçois.
Enfin, attention, on va pas oublier ça. Hein.
Je suis parisien depuis 40 ans, mais enfin, je suis niçois. Donc, alors, effectivement, ça m'a touché, ça m'a fait. Je suis impliqué là-dedans. Il y a une équipe formidable avec Florence Paris. Enfin bon, on s'entend tous très bien. Il y a de quoi faire.
Et on va en parler, mais on va écouter le pianiste tout de suite, par exemple, dans le Prestissimo de la sonate opus 109 de Ludwig van Beethoven.